Vox Romana.
Qui est Romani? Ah ouais. Et bienvenue dans la première édition de votre magazine radiophonique préféré, Vox Romana. Au programme aujourd'hui, le dossier de la rédaction avec Mohamed Ous et Omer qui nous parleront du rôle d'Auguste, un homme élevé au rang d'un dieu. Nous accueillerons ensuite Justinia et Samantha qui nous parleront de l'ascension d'Octave, comment le petit jeune homme a-t-il éliminé ses rivaux. C'est ensuite un témoignage sur la fameuse bataille d'Actium qu'un soldat d'Agrippa nous présentera avec Thomanus et Acrocha. Winkere et Maximus nous présenteront ensuite le portrait du grand ennemi d'Octave, Marc-Antoine. Était-il romain ou égyptien? Raja et Helena se prêteront ensuite à la question du jour. Cléopâtre, l'amante de Marc-Antoine, était-elle une sorcière ou bien une simple femme? Le scandale de la rédaction avec Lysila et Sarah sur le suicide d'Antoine et Cléopâtre. Pour finir, Mélaina et Carlita nous présenteront un portrait de notre chef suprême bien-aimé, Auguste.
Vox Romana.
Que West Romani, ah oui. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est comment Auguste, un simple mortel, Candide, est devenu le Deus Romanus. Mais tout d'abord, laissons place à Mohamedus qui vous parlera de l'Arapagis. Mohamedus, c'est à vous.
Merci, Homer. L'Arapagis a été édifié pendant le mois du Quintilis.
Attendez, on vient d'apprendre que le mois Quintilis se nomme maintenant Julius, qui est un nom originaire de Jules César.
Ah, merci. Pour l'info, maintenant revenons à nos moutons. Elle a été édifiée par le Sénat pour le retour d'Auguste, de la campagne d'Espagne et de Gaulle. L'Arapagis a été construit sur le champ de Mars. L'Arapagis est une sorte de petit temple à ciel ouvert, enclos de murs fermés par une porte. C'est un espace consacré à une divinité comme tous les autres temples anciens. Au centre, on y trouve un autel, c'est-à-dire cette fois une construction de maçonnerie qui sert aux sacrifices. Les sacrifices ont lieu à l'extérieur. Le nom de l'autel provient du titre que s'est donné Octave. Le mot latin « pacis » vient de l'un de ses objectifs que s'est donné le nouvel empereur, à savoir établir la paix sur terre. C'est pourquoi on trouve l'allégorie de la terre nourricière.
Et maintenant revenons à Octave. Octave était le jeune neveu et fils adoptif de César. Il écrase Marc-Antoine à la bataille d'Actium, ce qui fait de lui l'unique vengeur de César. Il devient alors le seul maître de Rome, et s'appropriera le premier titre d'Auguste. Il concentre alors peu à peu les pouvoirs. Il bénéficie du double titre César et Auguste, du pouvoir politique, puis militaire, et pour finir religieux. Il deviendra en peu de temps le héros de l'âge d'or. Il instaure la prospérité et l'abondance dans la République de Rome, en battant ces misérables pirates qui nous affamaient. En effet, le prix du pain a été divisé par 3 depuis que ces pirates ont été battus. Sans oublier sa générosité, qui est une qualité essentielle, pas vrai? Cet homme fera renaître Rome. Il construira un très grand nombre de monuments et agrandira nos frontières, à tel point que nous ne sachons plus où aller. Bref, je ne veux dire qu'une chose. Gloire à Auguste!
Romana.
Ah ouais, Key West Romani, bienvenue dans la suite de votre émission. Notre dossier du jour, l'ascension d'Octave. Comment celui qu'on appelait le petit jeune homme a-t-il éliminé ses rivaux? Des histoires que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Depuis le mariage très médiatisé d'Antoine et d'Octavie, qui a pris fin avec le reniement de cette dernière par Antoine, Octave ne laisse plus de chance à ses rivaux, n'est-ce pas?
Effectivement, Antoine en a fait les frais puisqu'il vient de décéder à Alexandrie avec sa maîtresse, la reine Cléopâtre.
Rappelez-vous de l'affaire du testament de César qui avait révélé au grand jour un certain Octave, tout juste adopté par le grand César.
Tout à fait, Samantha. On se souvient aussi de l'inoubliable arrivée d'Octave à Rome alors qu'il n'a que 19 ans. Retour sur un destin digne d'un dieu.
Lorsqu'Octave arrive à Rome, la ville est plongée dans la tristesse de la mort de César. Et même si en apparence Antoine et Octave s'allient pour venger César, notre divin Octave a d'autres idées en tête, que le médiocre Antoine n'imagine même pas. Alors, Quel va être le plan d'Octave ?
Eh bien oui, l'intelligent Octave sait qu'il doit gagner le cœur des Romains pour éliminer son premier rival, Antoine. Grâce aux dieux, il triomphe des traîtres. Malgré cette victoire, l'Empire reste incertain et notre merveilleux Octave doit réduire à néant Sextus Pompée et ses pirates.
Pour cela, Octave opte pour une alliance avec Lépide et le naïf Antoine, le triumvirat. Mais avant de se lancer dans la bataille, Octave s'assure que Rome soit vidée des ennemis républicains. Octave va-t-il faire preuve d'intelligence ?
Oui, après une bataille épique et une magnifique victoire, notre héros Octave fait preuve d'intelligence en laissant l'Orient, la partie la plus riche de l'Empire, à Antoine. Mais comment se débarrasser totalement d'Antoine ?
En restant proche de son futur peuple à Rome et en écartant Antoine du pouvoir, en le laissant retomber dans les bras de la reine d'Égypte, voilà comment notre prodigieux Octave réussit à détruire son premier rival.
Va suivre alors l'un des plus grands scandales de notre époque, le mariage d'Antoine et d'Octavie, orchestré par Octave. Une affaire qui se terminera mal, puisque Octavie se trouvera délaissée par son époux.
Cette histoire fera finalement monter la fureur d'Octave et celle du peuple romain. Commencera alors une énorme propagande anti-Antoine à Rome. Plus jamais les Romains ne porteront Antoine dans leur cœur.
Voilà comment notre dieu vivant a éliminé Antoine de la compétition, son plus grand rival. Merci de nous avoir écoutés.
A bientôt pour un nouveau dossier.
Quos Romani salue.
Vox Romana.
Quos Romani Aue. Après ce dossier fort intéressant, nous allons vous parler de la violente bataille navale d'Actium, qui opposa Marc-Antoine, le traître, et notre chef suprême Auguste, fils du divin César, souverain pontife, consul 13 fois, chef des armées pour la 14e fois, et revêtu de la puissance tribunicienne 20 fois. Nous recevons maintenant Accrocha, qui était sur la scène. C'est en effet un soldat d'Agrippa qui s'est battu comme un lion. Bonjour Accrocha.
Bonjour Thomanus.
Comment allez-vous ?
Je suis choqué. J'ai dû combattre mes propres frères romains.
Effectivement, choquant, très choquant. Vous regrettez d'avoir servi Agrippa et donc notre chef suprême Auguste, fils du divin César, souverain pontife, consul 13 fois, chef des armées pour la 14e fois et revêtu de la puissance tribunicienne 20 fois ?
Je regrette ? Non, je ne sais pas. Mais de toute façon, alea iacta est, en tant que soldat romain, j'ai dû tuer beaucoup de mes frères, des fois à contre-cœur. Mais c'est mon devoir.
Ah, Accrocha. Je combattis. Dur la vie. Racontez-nous ça plus en détail.
Nous avons attendu une bonne partie de la journée sur le bateau, mais vers la moitié de l'après-midi, lorsque le soleil éclairait nos navires, les bateaux du traître ont attaqué. Les nôtres ont entamé une marche arrière pour en faire croire à une fuite. Le piégé est donc. Un des chefs d'Antoine s'emballe, et nos bateaux nous tombent dessus. Nous faisons un volte-face, et nous les attaquons. La bataille commence, mais nous gardons l'avantage grâce à l'arpax. Au bout d'un moment, une brèche s'ouvrit dans nos défenses. Antoine et Cléopâtre profitent pour fuir, les lâches. Nous avons achevé les derniers par le feu, c'est pas du tout glorieux. Mais vive Auguste, fils du divin César, souverain pontife, consul 13 fois, chef des armées 14 fois, revêtu de la puissance tribunicienne 20 fois.
Merci, brillant, très brillant. Et j'achève cette interview avec mon slogan, vive Auguste, fils du divin César, souverain pontife, consul 13 fois, chef des armées pour la 14e fois et revêtu de la puissance tribunicienne 20 fois. Quos Romani, salue.
Vox Romana.
Quos Romani Aue. La question du jour est Cléopâtre, sorcière ou simple femme? Comme vous devez le savoir, depuis plus de 10 ans, Cléopâtre, la reine d'Égypte, a été en relation avec tous les grands hommes politiques. Cultivée, intelligente et puis politicienne, elle a également été l'amante de César puis de Marc-Antoine. Est-elle vraiment comme ce que l'on croit? Pour avoir la réponse à notre question, trois personnes sont présentes avec nous. Un historien, César Auguste, et la nourrice de Cléopâtre. Simon, un historien compétent, est présent avec nous. Nous allons en profiter pour lui poser quelques questions. Alors, selon toi, l'image que l'on donne à Cléopâtre est-elle réelle ?
Je vous affirme que lorsque César a été assassiné, Cléopâtre avait besoin d'une nouvelle alliance car elle était en danger de mourir.
Est-ce que son coup de foudre pour Antoine était-il sincère ?
Le coup de foudre de Cléopâtre pour Antoine n'était pas sincère. Elle en aurait même profité pour influencer Antoine sur le choix du type de bataille qu'il opposait à Octave.
Merci beaucoup Simon. Maintenant César Auguste va nous donner son avis. Selon vous César Auguste, Cléopâtre est-elle vraiment une sorcière comme tout le monde le pense à Rome ?
C'est une grecque, et comme toutes les grecques, elle pratique de la magie noire. Elle a manipulé César et Antoine en leur faisant boire un philtre d'amour, pour qu'ils deviennent ses amants. C'est une sorcière, donc la mort était ce qu'elle méritait le plus.
Merci beaucoup, Jive et Auguste, d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir, nous allons demander des renseignements sur Cléopâtre à sa nourrice qui était plus proche d'elle. Nous avons eu l'avis d'un historien, de César Auguste. Maintenant à toi, peux-tu nous répondre à la question du jour ? Cléopâtre était une sorcière ou une simple femme ?
C'était une simple femme. Elle était aimable, sincère et au contraire, elle n'était pas manipulatrice comme tout le monde le pense.
Et sa relation avec Antoine, était-elle sincère ?
Oui, elle me disait même que sans lui, elle se sentait seule. Elle a partagé avec lui tous ses navires et ses vaisseaux durant les guerres. Si elle ne l'aimait pas, pourquoi se serait-elle suicidée après sa mort ? Évidemment qu'elle l'aimait.
Excusez-nous pour cet imprévu. Ces paroles lui ont coûté cher. Nous avons pu entendre trois personnes donnant leur avis sur Cléopâtre. À vous d'avoir la vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Kiwes Romani, Saloué.
Vox Romana.
Kiwes Romani, Aoué. Nous vous présentons notre dossier scandale. Le suicide d'Antoine et Cléopâtre. Des amants au destin tragique. L'amour, la passion coulent dans les veines de ces deux amants. Nous n'aurions jamais cru qu'ils s'aiment pour l'éternité. En cette fin de combat, la flotte égyptienne est vaincue à la bataille d'Actium. Cléopâtre et Marc-Antoine, jeunes parents de deux enfants, se donnent la mort d'une manière très tragique. Mais comment se sont-ils donné la mort ?
Cléopâtre, après avoir lancé la rumeur de sa mort par lâcheté et par peur que l'on l'humilie, essaye de se cacher pour ne pas trahir sa rumeur. Son amant, Antoine, chef de l'Orient, le lâche, apprend la rumeur de la mort de sa bien-aimée et, faute de réussir à vivre sans elle, se donne la mort en s'enfonçant son épée dans le sein, après l'inspection du corps.
Cléopâtre, dévastée, a réussi à faire commettre à son amant sa mort qu'il n'aurait jamais pu se donner si son amour avait été auprès de lui. Grâce à une lettre enflammée que l'on a retrouvée et que nous vous lirons dans notre prochain dossier en exclusivité, la reine a donné le courage à Antoine de partir.
D'après l'autopsie de son corps, elle se serait empoisonnée pour rejoindre son amant. Selon la compagne de chambre, un serpent lui aurait piqué les veines. Elle aurait succombé ensuite à une mort semblable au sommeil, revêtue de sa plus belle toilette et de ses plus beaux ornements. Elle se serait couchée sur le lit funèbre auprès de son cher Antoine. Le serpent est retrouvé 3 heures après, près du lit où les deux amants sont couchés sans vie.
Leur mort ne fut pas si étonnante, elle fut digne de leur réputation de lâche. Bien, notre dossier scandale est terminé, nous espérons que cela vous a plu et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain numéro où nous vous lirons la lettre de Cléopâtre en exclusivité. Kiwes Romani, Aoué.
Vox Romana.
West Romani, Aoué. Ici Rébagnus et Casquetus pour vous présenter l'événement de cette semaine.
En effet, il s'agit d'un événement assez particulier. Un simple homme de la cour a organisé un complot contre le grand César Auguste. Ce dernier ne l'a pas puni après l'avoir su. Il l'a même épargné. Pourquoi donc ? Simple acte de clémence ou à calculer ? Vous allez le savoir.
Notre chef suprême, César Auguste, fils du divin Jules César, consul désigné 13 fois, souverain pontife, revêtu de la puissance tribunicienne 20 fois, était de voyage en Gaule conquise par son père. Mais un jour, on lui révéla qu'un homme nommé Lucius Cinna avait préparé un grand complot contre lui.
C'était un de ses complices qui l'a trahi et qui a tout révélé à Auguste. Ce dernier, après quelques heures de réflexion, décide de convoquer le voyou seul.
Lucius était déjà destiné à la mort. Il aurait déjà été repêché, comme un poisson, dans le camp ennemi, donc il lui avait déjà donné la vie.
En effet, il fait de Cinna un ami très proche, au point de le désigner consul et de faire de lui son unique héritier.
C'était donc un acte de clémence. On voit ici à quel point nous avons un bon chef, nous avons de la chance de l'avoir. Il gère très bien l'Empire. Bref, il a demandé à Cinna de lui rester fidèle. Nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons une bonne journée.
Croyez pas qu'on dit ça pour éviter la prison. Ça vient de nous, ou pas en fait. Kiwes Romani, Saloué.
Vox Romana.
Aoué Kiwes Romani, notre portrait d'aujourd'hui est Auguste, impitoyable ou indulgent.
En apparence, notre divin Auguste n'avait pas l'air d'un guerrier. Il n'avait pas un visage dur. Il reflétait la douceur, la gentillesse derrière un visage d'enfant. On ne l'aurait pas cru empereur. Mais que cache ce visage candide ?
Il semblait avoir deux visages, l'un impitoyable, l'autre indulgent. Lequel de ces deux visages est le vrai ?
D'après un témoignage anonyme, l'intendant de notre grand empereur, Auguste, l'aurait projeté par peur sur un sanglier. Mais Auguste, consul 13 fois, fils...
Oui, c'est bon, on a compris.
Oui, bon, ok. Dans sa grande clémence, aurait préféré tourner la chose en plaisanterie, bien qu'il fût en danger de mort.
Lorsqu'il était avec Antoine, ce traître, il pillait de l'argent au seigneur et tuait ceux qui s'y opposaient. Mais lorsqu'il le vaincut, il n'hésita pas à assassiner les enfants de Cléopâtre. Donc, quelle est la conclusion ?
Auguste, fils du divin César, se montre indulgent envers ceux qui l'unissent de manière volontaire.
En revanche, il est particulièrement sévère envers les corrompus, les traîtres et les perfides. Il cherche à défendre des valeurs morales.
La vertu, le respect des dieux et la loyauté.
Qui est Romani salué. Romana.
Qui est Romani, merci d'avoir suivi avec autant d'attention notre émission favorite. Consacré donc ce soir, je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas bien compris, à Auguste, fils du divin César, chef des armées, souverain pontife.
Romana.